Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 10 septembre, la visite d'Emmanuel Macron dans la métropole de Lyon ce mardi. D'abord pour inaugurer une nouvelle usine Sanofi à Neuville-sur-Saône et ensuite pour lancer les World Skills à Eurexpo. Les personnels du collège Raoul Dufy débutent ce mardi un mouvement de grève reconductible. La maire du 1er arrondissement, Yasmine Bouaga, choquée par les révélations de l'enquête sur les violences sexuelles commises par l'abbé Pierre. Reste à savoir quel sera l'avenir d'Henri Grouès sur la célèbre fresque des Lyonnais dans le quartier de la Martinière. La mort d'Edmond Vidal à 80 ans, figure du légendaire gang des Lyonnais. Et puis nous parlerons également de la fabuleuse cantine, concept né à Saint-Étienne en 2017, importé à Lyon, et qui va investir bientôt un haut lieu patrimonial bien connu des Lyonnaises et des Lyonnais, le fameux Chalet du Parc. Pour en parler, Eric Petrotto, le PDG et cofondateur de la fabuleuse cantine, dans cette édition.
Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Emmanuel Macron en visite donc à Lyon ce mardi. Le président de la République va d'abord se rendre à Neuville-sur-Saône pour inaugurer la nouvelle usine Sanofi du géant pharmaceutique. Le chef de l'État est censé arriver à 16h30 sur le site. Un investissement conjoint de 490 millions d'euros de l'État et de l'entreprise qui avait été annoncé par le président dans le Rhône déjà à Marcy-l'Étoile lors d'une précédente visite en juin 2020. Cette unité de production de vaccins intitulée EVF, Evolutive Vaccine Facility, est destinée à produire d'ici à 2025 3 à 4 vaccins en simultané. Le projet prévoit la création de 200 nouveaux emplois. Macron se rendra ensuite à 19h30 à la LDLC Arena de Décines pour la cérémonie d'ouverture des World Skills. Il donnera le coup d'envoi de la 47e édition de cette compétition mondiale des métiers qui va se dérouler toute cette fin de semaine. Pour rappel, la France vise le top 5. La compétition s'annonce rude face aux redoutables jeunes talents, notamment de Chine, de Corée, de Taïwan ou du Japon. Les personnels du collège Raoul Dufy débutent ce mardi un mouvement de grève reconductible. Ils entendent dénoncer l'absence de plusieurs membres de l'équipe éducative et la dégradation des conditions d'enseignement. L'établissement sera fermé aux élèves. Ce sont environ 435 élèves qui n'auront pas cours, au moins ce mardi. La maire du 1er arrondissement, Yasmine Bouaga, se dit choquée par les révélations de l'enquête sur les violences sexuelles commises par Henri Grouès, alias l'abbé Pierre. Sollicité par une association de défense des victimes, l'élu des Pentes invite à un échange autour de la représentation de la fresque des Lyonnais avec Cité Création et la Fondation Abbé Pierre. L'établissement privé Saint-Marc, lycée dans lequel l'abbé Pierre a fait ses études, aurait déjà fait le choix de voiler la plaque commémorative sur la façade du lycée. Edmond Vidal, figure du légendaire gang des Lyonnais, est mort à 80 ans des suites d'un cancer. Il était considéré comme le leader du gang qui, entre 70 et 74, se fit connaître par une série de hold-up audacieux, 35 braquages en 4 ans, notamment le braquage de la poste centrale de Strasbourg le 30 juin 1971, dont le butin dépassa les 10 millions de francs, qui représenterait environ 8 millions d'euros aujourd'hui. Edmond Vidal, dit Momon ou Yeux Bleus, a passé son enfance dans plusieurs campements de Lyon, notamment dans une cité d'urgence fondée par l'abbé Pierre. C'est à Décines que se nouent les amitiés de jeunesse qui constitueront le ciment du gang, devenu célèbre pour être passé maître dans l'art du braquage, de longs repérages, des itinéraires savamment calculés. Edmond Vidal est condamné en 1974 à 10 ans de réclusion. Après sa libération en 82, il prend ses distances avec le grand banditisme. Edmond Vidal au cinéma, c'est Gérard Lanvin dans le film d'Olivier Marchal sorti en 2011. Les Lyonnais.
Lyon demain, les Lyonnais vont vous surprendre.
C'est l'une des nouvelles adresses branchées à Lyon. Vous avez peut-être entendu parler de la fabuleuse cantine installée au bout de la rue de Marseille entre Gerland et Guillotière. Une cuisine créative et bio à dominante végétarienne, issue de l'achat en circuit court d'invendus et surplus. Ici, on conçoit les recettes avec les produits du jour et non l'inverse. Concept né à Saint-Étienne en 2017, développé aussi dans l'ouest de la France et bientôt dans un haut lieu patrimonial bien connu des Lyonnaises et des Lyonnais, le fameux Chalet du Parc. Nous avons rencontré Eric Petrotto, PDG et cofondateur de la fabuleuse cantine.
C'est un projet agroalimentaire éco-responsable. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un projet de territoire. On maille ce territoire en créant des partenariats privilégiés avec des petites fermes maraîchères, des jardins d'insertion, des logisticiens qui ont des problématiques d'écart de production, qui ont des problématiques d'invendus. Il y a plus entre 14 et 50% de certains légumes qui restent et pourrissent dans le champ parce que, effectivement, moment, il n'y a aucune raison d'aller les chercher. L'économie réelle n'en veut plus. Il n'y a plus d'issue. Il faut aussi, effectivement, le coût de la main-d'œuvre. Il y a des problématiques qui engendrent que nous sommes sur des tonnages complètement hallucinants par minute en France de gaspillage alimentaire. Et donc, la fabuleuse comptine est venue traiter cette question-là en créant, effectivement, ces partenariats privilégiés et en achetant ces écarts de production. Donc, c'est bien de l'achat d'un vendu de fruits et légumes bio qu'on transforme en cuisine créative. Donc, on renverse les codes, on renverse la table, on ne construit pas des recettes où il nous faut aller en local, en bio, aller chercher de la matière. Non, c'est prendre cette matière locale, bio, et effectivement invendue et en flux subi, on la transforme ensuite en cuisine créative, et là naissent bah, du coup les menus, les recettes, par rapport à effectivement ces flux. Donc, la Fabuleuse Cantine fait effectivement ça, et c'est son cœur de métier.
Quel est le parcours alors d'un produit que vous achetez en invendu qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous pouvez l'utiliser derrière?
Là, quand on parle de fruits et légumes, on n'est pas sur des dates limites de consommation. On est sur est-ce que ce fruit, est-ce que ce légume a une tronche qui peut encore être à la fois consommée et travaillée. Et c'est ça là, le volet voilà, assez logique, organique et subjectif de se dire, bon ben bah, voilà, ok, pas de problème, il va falloir peut-être un peu plus de temps homme pour faire en sorte qu'il puisse se transformer en quelque chose de goûtu, parce qu'il est biscornu, parce qu'il est un peu abîmé, parce qu'il faut le travailler effectivement plus que si on avait des choses beaucoup plus formatées et calibrées. Mais c'est le seul frein. Est-ce que d'un coup, on se retrouve pas avec des choses qui sont perdues quoi, à vie quoi. Donc en gros, c'est appréhender ça et transformer derrière. Et ensuite, cette transformation, lui trouver des issues de vente pour se dire, bah, ok, super, bien beau d'avoir cette idée, mais qui va vous en vouloir? Est-ce que ça va être bon? Est-ce qu'il va y avoir des clients? Où est-ce qu'on diffuse tout ça quoi? Et c'est là où on a, nous, construit un modèle hybride économique de diffusion, effectivement, cette transformation.
Le produit, quand il arrive pas directement au restaurant, il arrive sur une plateforme, c'est ça?
Il arrive dans notre laboratoire, dans notre conserverie de territoire, et ce qui nous permet, en fait, d'avoir des volumes beaucoup plus gros qui sont centralisés, et ensuite, on livre, effectivement, nos lieux, mais on livre aussi, enfin, notre laboratoire annexe, par exemple, à Lyon 8, Vermeuse-Pinel, c'est-à-dire tous les endroits où, on appelle ça nos unités de transformation, où, effectivement, le fruit ou le légume peut être travaillé, peut être transformé.
La difficulté, c'est que quand on cherche à avoir un plat à la carte, il faut avoir des produits, on n'a pas forcément ces produits au moment où on les veut. C'est un petit peu construit à l'envers, hein, votre démarche?
C'est complètement à l'envers. Notre sous-titre, c'est la Fabuleuse Cantine, c'est renverser la table. C'est pas pour mettre le bazar, c'est plutôt pour réfléchir avec une réflexion résiliente de territoire, de réapprendre à faire avec ce qu'on a. Donc, effectivement, c'est construire à l'envers une réflexion de ce que peut être demain un restaurant.
Ah, vous avez quoi? Vous avez trois sites, c'est ça? Trois restaurants pour où le public peut aller?
On est né à Saint-Etienne, à la Cité du Design. Donc là-bas, on a 450 mètres carrés, donc on a un lieu de vie. Donc ça, premier site. On a eu cette chance, cette opportunité, même si ça paraît un peu loin, et c'est assez marrant d'ailleurs comme nouveau terrain de jeu, de recréer tout l'écosystème. Donc les 80 km, le maillage, et tout le modus operandi de la Fabuleuse Cantine à La Rochelle. Ça, c'est notre deuxième lieu, qui est né en 2019. Et là, on est arrivé à Lyon 7e.
Donc à Lyon 7e, rue de Marseille. Donc ça, c'est au bout de la rue de Marseille. Qu'est-ce que vous proposez ici concrètement pour les Lyonnais?
Donc on est au 107 rue de Marseille. Donc on propose l'expérience Fabuleuse Cantine avec un côté cantine du midi, restauration, voilà, somme toute, on va dans un restaurant, mais on vient vivre cette expérience qui est totalement zéro déchet. On propose aussi une programmation sociale et culturelle. Donc 4 fois par semaine, il y a des événements le soir, du mercredi au samedi, où là, on a aussi une offre de restauration, mais effectivement adossée avec cette programmation sociale et culturelle qui en fait un lieu de vie où on peut faire l'inclusion des publics de manière plus forte. Et puis on propose les dimanches, on propose des brunchs avec souvent une animation. Alors ça peut être du massage, ça peut être effectivement un côté un peu fripe qui vient télescoper ceux qui viennent bruncher et ceux qui viennent se faire masser. Enfin voilà, un peu une réflexion troisième lieu ou tiers lieu, appelons-le comme on veut. Mais c'est ça qu'on propose pour les Lyonnais, effectivement dans le 7e.
C'est cette activité puissance 10 que vous allez proposer bientôt au Chalet du Parc?
Alors le Chalet du Parc, c'est encore un autre projet parce qu'il est pas n'importe où. Alors il est à Lyon, ça n'a échappé à personne, mais il est dans un parc. Dans un parc gratuit, dans un parc où il y a beaucoup d'âmes qui circulent. Hein. C'est plus de 8 millions de passages dans ce parc et qui est aussi contraint par des horaires du parc. Donc on ne pourra pas avoir par exemple la programmation du soir d'un Lyon 7 ou d'un Saint-Etienne, mais on pourra avoir effectivement plein d'agitations qui peuvent se dérouler en journée avec de l'accueil d'entreprises, d'associations, de collectivités, sur des modes séminaires, parce qu'on aura de grands espaces sur le volet événementiel privatisation, mais aussi une cantine et qui offre la possibilité de vivre cette expérience et de venir les midis déjeuner, les after work du soir, parce que du coup, voilà, il y a des horaires un peu plus tard pour les périodes d'été, donc on pourra là-bas sortir du travail et venir passer un chouette moment. Mais surtout, on partage les espaces avec une ONG, pas n'importe laquelle, voilà, c'est la Fondation Good Planet, et cette fondation qui œuvre depuis très longtemps déjà sur Paris, arrive à Lyon avec une volonté de proposer des expositions, des ateliers de sensibilisation autour des enjeux climatiques, écologiques, avec une approche positive. Et du coup, on va pouvoir bien sûr faire des passerelles évidentes entre cette offre d'alimentation durable, de résilience alimentaire, et cette offre d'exposition et de sensibilisation et d'ateliers surtout, parce qu'ils font aussi beaucoup d'ateliers où ils accueillent des scolaires, de la Fondation Good Planet. On a un troisième acteur, qui est un acteur du territoire, qui est la Maison Gutenberg, qui va être plutôt dans la sphère à travailler avec la Fondation pour se dire bah, quel plasticien peut venir aussi s'exprimer sur telle thématique qui télescope les enjeux de notre époque, les enjeux aussi de ce que veut dire bien commun, maison pour tous, d'expérience dans une nouvelle économie, dans un nouveau monde qui est en transformation. Ça, ça n'a échappé à personne, pour le coup. Et du coup, avec ces trois acteurs, on va faire vivre ce chalet du parc.
Ça paraît quand même un projet quand même qui est fabuleux, hein, excusez du jeu de mots, qui est quand même énorme en tout cas. Comment on porte ce projet sur le plan économique? On a vu des choses circuler sur Internet, comme quoi il n'y aurait pas d'argent pour alimenter ce projet. Dites-nous un petit peu, rassurez-nous.
Le numérique est un pharmacon. Il y a tout le bien et le mal réunis, tu sais, dans la même révolution qu'est cette datasphère. Donc on peut entendre tout et son contraire, et bon, ça crée le débat, et puis ça permet aussi effectivement de venir clarifier certaines choses. Donc bon, comment on porte un projet comme ça? Déjà, on ne porte pas seul, donc on est dans un consortium, puis surtout il y a une méthodologie, parce qu'effectivement on est en train de parler d'enjeux assez importants, et puis j'ai envie de dire que l'importance, elle n'est pas que financière, c'est un sacré bâtiment qui a une sacrée histoire, et du coup il y a un enjeu patrimonial aussi à le refaire vivre de sa plus belle façon, de sa plus belle manière. On a réuni dans le consortium plutôt de la compétence d'un point de vue promoteur immobilier, financeur de la promotion immobilière pour pouvoir faire la réhabilitation du chalet, et donc ça depuis très longtemps effectivement c'est en route, donc avec tout le processus de travailler avec des architectes, de travailler avec une partie d'architectes qui est plutôt spécialisée sur le volet patrimonial, et puis sur comment on en fait un bâtiment positif, un bâtiment de pour projeter dans 50 ans. Donc c'est un bâtiment qui vient être positif en eau, en électricité, donc qui a des enjeux climatiques, écologiques aussi de son époque, et donc tout ça c'est une première effectivement grande sphère. Et dans la deuxième partie, c'est plutôt la partie dont on a entendu parler, parce que c'est celle qui est peut-être la plus visible et attendue, c'est la partie des exploitants. Et donc là il y a deux exploitants preneurs effectivement de ce sous-bail amphithéotique, c'est la Fondation Good Planet et la fabuleuse cantine. Et donc là c'est d'autres enjeux de recherche de fonds qui ne sont pas les mêmes d'une ONG ou d'une entreprise comme nous, qui rentrons plus dans une économie plus classique, même si elle est d'innovation sociale, elle est classique, il y a des clients, ils payent, on vend quelque chose, enfin on est sur un processus plus classique que faire un accueil des familles, des gens gratuitement dans des lieux toute la semaine. Et du coup on vient nous livrer un bâtiment à une date donnée, donc là c'est fin 2025 ce qui est prévu et ce qui sera fait, et donc nous on va devoir aménager et ouvrir et exploiter effectivement ce grand bâtiment, ce phare, ce lieu totem qu'est le chalet du parc. Donc voilà un peu comment se construit effectivement un tel projet. On est encore aujourd'hui sur cette phase de bientôt le début des travaux, donc les architectes ont bientôt, ils livrent fin septembre la copie finale après de nombreuses études. Là où il a un enjeu à mon sens fort, et il faut vraiment pas sous-estimer et rester humble sur cette capacité à trouver les clés, c'est qu'il faut pas en faire un lieu pour les convaincus, il faut en faire un lieu pour tous ceux qui foulent ce parc et qui peuvent avoir cette curiosité de venir nous rendre visite. Pour ce faire, il nous faut absolument trouver les codes qui nous permettent d'ouvrir la porte et de tendre la main à tout le monde, et ça va passer par la manière dont on va pouvoir raconter cette histoire, la proposer et offrir cette expérience à toutes les Lyonnaises et les Lyonnais. Ça va bien au-delà de ça, et tu en as bien conscience, c'est-à-dire que ça va bien au-delà de Lyon, tous ces gens qui viennent dans ce parc.
Notre
pareil, comment il se passe avec Yann Arthus-Bertrand, il y a des passerelles qui existent, où chacun est dans son coin.
Non, depuis le début, on est main dans la main dans une réflexion. Alors bien évidemment avec ses équipes, Yann Arthus-Bertrand suit ça et intervient à des moments ponctuels, parce qu'il a de multiples projets en cours et en parallèle. Donc c'est plutôt effectivement avec toutes les équipes, le directeur de la fondation, tous ceux qui travaillent la médiation, tous ceux qui effectivement œuvrent au château là-haut à accueillir des dizaines et des dizaines de milliers de personnes par mois. Hein. Donc c'est pas rien un savoir-faire comme ça que d'être dans ce qu'ils font déjà depuis très longtemps. Et donc nous, on est en interaction avec eux. On se sent complètement proche par rapport à la manière dont nous, on pense restauration. Restauration qui reste un médium quand même essentiel pour fédérer, pour faire de l'inclusion des publics, pour venir partager, pour venir être un langage commun à tous. Et eux qui, effectivement, ont cette envie d'être dans le sensible, l'éducatif, la transmission de ces enjeux où il faut savoir parler amour et rester positif. C'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas rentrer dans un costume de donneur de leçons, quoi. En ça, on est complètement phasé et on travaille main dans la main ensemble. C'est quasiment du 3 réunions par semaine. Hein. Fondation fabuleuse à travailler avec différentes équipes qui vont mettre au grand jour ce chalet du parc.
Comment vous voyez l'avenir de l'entreprise, la fabuleuse cantine, dans les années à venir
Ce qu'on aimerait, c'est que on puisse bien sûr trouver les clés de la duplication de ce projet. On va, pour ce faire, faire grandir, grossir tout ce qui va être le pôle traiteur, qui pour nous est très important pour aussi rayonner bien au-delà de nos lieux. Et du coup, de se dire, ok, si unité de transformation adossée à service traiteur, qui plus est a autour de cette constellation des lieux de vie qui permettent du coup de se rencontrer, nous, toi et moi aujourd'hui, tu vois, et bien au-delà de ça, faire vivre cette expérience et cette nouvelle approche, comment on duplique dans d'autres territoires, unité de transformation, service traiteur et lieu de vie. Et donc l'idée, c'est vraiment de trouver les territoires qui seraient adaptés à pouvoir accueillir et être prêts, parce que mine de rien, il ne faut pas sous-estimer à quel point Auvergne-Rhône-Alpes, et dans Auvergne-Rhône-Alpes, métropole de Lyon, même Saint-Etienne, et Clermont-Ferrand, enfin je peux les mettre dedans, sont effectivement assez aguerris à ces enjeux, à cette appétence de vouloir tester autre chose. Encore plus à Lyon, bien sûr, et encore plus sur cette métropole. Mais globalement, c'est de se dire, il existe forcément. Alors, la Bretagne, l'Île-de-France, là, on voit tout ce qui s'opère en ayant déjà une fabuleuse cantine. Donc, un lieu, on n'a pas encore l'unité de transformation, mais on voit tout ce qui s'opère en Grande-Aquitaine. Et là-bas, ce serait parfait pour qu'on puisse, pareil, amplifier et créer ce qui manquerait, c'est-à-dire unité de transformation plus service traiteur, B2B, B2C. Et donc, non, l'ambition, c'est de grossir, grandir. On est 35 salariés aujourd'hui. Enfin, j'aimerais qu'on soit 350 et que se dire, ok, on a transformé 150 tonnes, on va en transformer 1500. Mais 1500, pas en. Enfin, en les transformant, quoi. En les transformant et en les vendant et avec des gens qui mangent à la fin, quoi. Ce serait ça l'ambition de la fabuleuse cantine.
Avec toujours le respect du goût. Hein, ça, on en parlait avant dans cette interview. Le principe, hein, c'est de ne pas venir en disant on fait une bonne action et puis en mangeant des produits invendus.
En rigolant tout à l'heure, on se disait que, allez, j'arriverais une fois à te vendre de la solidarité et à te vendre de l'anti-gaspi. Et si tu te régales pas, tu vas pas revenir. Donc ça, en quelque sorte, on est en train là d'expliquer la mécanique pour comprendre qu'est-ce que c'est ce projet, qu'est-ce que c'est la fabuleuse cantine. Mais au fond du fond, à la fin, tu viens dans un endroit, tu passes un bon moment, tu manges du bio à un prix ultra raisonnable, parce que c'est ça aussi, le fait de les acheter moins cher en amont, même si on a des ratios un peu plus forts que la profession sur ceux qui transforme, parce qu'il nous faut un peu plus d'humains pour transformer des trucs qui globalement fruits et légumes qui sont plus abîmés que du normé. Mais au fond du fond, tu te retrouves avec un plat, avec des menus, avec un burger anti-gaspi, avec un service traiteur qui vient être goûteux, audacieusement, incroyablement créatif. Et non, c'est bon, quoi, on se régale, hein. Je crois que ça se voit, non, enfin après voilà, c'est un podcast audio, fort heureusement, mais enfin, parce que le bio ne veut pas dire que, tu vois, à un moment donné, on peut pas avoir un peu d'embonpoint. Ça, c'est l'histoire des volumes. Et je goûte tout. Enfin voilà, sache-le.
Retrouvez l'interview complète d'Éric Petrotto sur liondemain.fr. Jean-Louis Aubert en concert à la LDLC Arena le 15 février 2025. La billetterie pour le concert de l'ancien leader de Téléphone sera ouverte jeudi à 10h. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition. Je vous souhaite en attendant de passer une excellente journée.